Retrouvez chaque jour sur les ondes de fréquence Mistral votre minute psycho-sexo présentée par Laura Giraud avec Sonia Odo, psychanalyste, hypnothérapeute et professeur de Vinyasa Yoga. Dans chaque chronique, Sonia répond à vos interrogations psycho-sexo sans tabou. Pour poser vos questions, envoyez un mail à sonia.odo@icloud.com.
Tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous continuons nos chroniques avec Sonia. Bonjour Sonia.
Bonsoir, ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique psycho et sexo.
Peut-on être addict au sexe? Est-ce différent de la nymphomanie? Morgane.
Ouais, c'est Morgane qui pose cette question. On a longtemps défini la nymphomanie comme un trouble psychiatrique chez la femme. Il y avait un certain docteur en médecine, Debienville, et on se souvient de son ouvrage intitulé « La nymphomanie ou le traité de la fureur utérine », qui est paru en 1886. Et finalement, c'est glaçant quand on y repense à cette fureur utérine. C'est défini comme une pathologie violente venant de l'utérus, qui donna le concept d'hystérie. Et on en est où finalement aujourd'hui, au regard de cette compréhension un peu misogyne de l'époque et de la description d'un symptôme que l'on nomme maintenant l'hypersexualité. Alors, qu'est-ce que la nymphomanie? L'émergence du rapport du concept de nymphomanie est paradoxalement en lien avec le développement de la psychiatrie. On pouvait parler du satyriasis ou du donjuanisme chez l'homme et de nymphomanie chez la femme. Alors, pourquoi ce terme? Moi, je le trouve maintenant dépassé. Si on reprend la définition de nymphomane, la nymphomane désignait une femme avec un désir sexuel exacerbé et pathologique. La notion de pathologie psychiatrique était particulièrement forte pour les femmes, contrairement au terme beaucoup plus souple, qui désigne les hommes atteints des mêmes symptômes. C'est pour cette raison que les médecins de l'époque reliaient par facilité misogynie ou mécompréhension le concept d'hystérie à la nymphomanie, comme si ce désir sexuel exacerbé provenait de l'utérus. D'un point de vue étymologique, la nymphomanie a signifié la folle des petites lèvres, nymphe et mania. Cette notion de folie était le propre de la nymphomane. Et même aujourd'hui, ce terme reste dégradant et souvent perçu comme une insulte, et à juste titre. La sexualité des femmes, finalement, a en effet longtemps été incomprise, dénigrée. Jusque dans les noms que l'on donna à son anatomie, vagin, utérus, clitoris, tous ces termes ont des racines étymologiques douteuses. Par exemple, le vagin, du latin vagina, signifie gaine ou fourreau. Voilà, encore une fois, très élégant, très très élégant. Pire encore, l'hystérie. Une maladie inventée pour les femmes, épuisant son origine de l'utérus, remontée jusque dans la cage thoracique avant de provoquer ces fameuses sautes d'humeur. Et les médecins reliaient ce concept d'hystérie à celui de la nymphomanie, forcément dans un esprit de domination. Alors comment a évolué ce concept de nymphomanie depuis? De la nymphomanie à l'hypersexualité et la sexualité addictive, c'est finalement à la fin du 19e siècle que Ernst Kretschmer sépare la catégorie des masturbateurs frénétiques du délire de relation. En 1887, le sexologue Kraft Ebing est le premier à détailler un chapitre de l'hyperesthésie sexuelle dans son ouvrage Psychopathia sexualis. On commençait alors à se rapprocher de notre concept le plus actuel d'hypersexualité. À cette époque, la pathologie d'hyperesthésie sexuelle, venait remplacer le concept d'exaltation morbide de l'instinct sexuel. Voyez un peu. On considéra alors que l'individu éprouvait finalement une grande difficulté à atteindre une satisfaction sexuelle. Et par conséquent, ce désir prenait toute la place chez lui. Mais l'hyperesthésie sexuelle est distincte du satyriasis chez l'homme et de la nymphomanie chez la femme. En effet, on retrouve l'idée que l'instinct sexuel n'est pas apaisé dans l'hyperesthésie sexuelle, alors qu'il est quand même satisfait à des périodes pour les deux autres. Il y a des périodes un petit peu de trêve. Aujourd'hui, les manuels de médecine ne parlent plus très très peu de la nymphomanie ou du satyriasis. Ces termes ont tous été remplacés par l'hypersexualité, la sexualité compulsive ou encore le désordre atypique des impulsions. La plupart du temps, les chercheurs parlent de sexualité addictive également. On souligne aussi que l'hypersexualité est à différencier de l'addiction. L'hypersexualité peut résulter d'un choix, alors que le comportement addict est incontrôlé. Alors, est-ce que c'est un syndrome finalement, un symptôme, la nymphomanie ou la sexualité addictive? Toute cette difficulté entre les psychiatres et les addictologues est de classer ce trouble sexuel et, par extrapolation, la responsabilité de l'individu. Encore une fois, on tombe sur la responsabilité. Car si la sexualité addictive était officiellement reconnue, un patient déclaré sexodépendant pourrait, dans une certaine limite, se justifier comme non responsable de ses comportements sexuels. Vous voyez un petit peu la porte qui s'ouvre. C'est ce qui se produit par exemple lors des divorces people, quand un avocat pathologise la vie sexuelle de son client dans le but de contester des sommes importantes réclamées par la conjointe trompée. Bon, finalement, par ailleurs, la question de l'évaluation se pose pour pouvoir estimer également la souffrance, car il y a véritablement une souffrance liée à cette dépendance comportementale. Est-ce qu'on doit juger le normal du pathologique sous le prisme de la quantité, ou alors est-ce qu'on doit s'intéresser aux sentiments du patient ? Finalement, le clinicien doit définir la sexualité addictive en dehors d'une vision normative des déviances sexuelles. Pourquoi ce serait très compliqué de définir une sexualité normale ? Dans la même idée, on devrait comprendre différentes formes de sexualité addictive et non uniquement une sexualité addictive. La sexualité addictive, c'est finalement la place du partenaire, la dépendance sexuelle, l'influence des relations. Dans cette sexualité souvent exprimée à seule fin d'assouvir des pulsions, le partenaire devient presque une sorte d'étranger, comme un produit ou une drogue absorbée. Et l'attention n'est apaisée que pendant un court instant. La sexualité qui est alors recherchée et vécue, c'est une obsession compulsive. Le sexe peut même être envisagé comme une drogue ou un moyen de décharger des tensions. Parmi les critères de dépendance sexuelle, on retrouve la recherche d'un shoot, au même titre que la consommation de produits, une existence qui n'est pas possible en dehors du sexe, l'augmentation de la fréquence des rapports pour se tranquilliser, une fuite du quotidien, une recherche de sensations fortes, c'est une forme finalement de toxicomanie. Alors je ne reviendrai pas sur l'histoire de la nymphomanie, de la frigidité hystérique. Les études ont montré que l'obsession sexuelle omniprésente d'une personne addicte au sexe ne laissait que très très peu de place finalement à la satisfaction sexuelle. Et c'est là où il y a cette histoire de souffrance. Et finalement, cette frénésie, elle pourrait venir à dissimuler la souffrance affective où la séduction a autant sa place que l'acte sexuel en lui-même. On retrouve aussi l'idée que l'hystérie frigide reste froide avec tous les hommes afin de rester chaude avec un objet oedipien interdit, finalement le père ou le frère. Mais s'agissant du sexe addict, cette notion affective est au contraire absente, même si l'injonction inconsciente de dénoncer « aime-moi » devient finalement « baise-moi ». Pour l'hystérique, pardon, et le sexe addict. Alors, est-ce que l'addiction au sexe est une perversion ? La perversion, elle est souvent dotée du désir plus ou moins conscient de faire mal, alors que la sexualité addictive n'est pas forcément ancrée dans le domaine psychopathologique des perversions. Pourtant, on relève aussi la problématique de la négation de l'autre et le fait de le considérer comme une chose. S'agissant de la relation perverse, le plus souvent, elle tire son origine des modalités de lien aux premières expériences affectives. Comportements séducteurs paradoxaux et imprévisibles. Il y a également le mélange entre l'excitation et la frustration, la tendresse, le rejet, séduction, condamnation. Personne diagnostiquée perverse va ensuite rester enfermée dans cette configuration affective spécifique et c'est dommage. Elle va la reproduire aussi dans sa relation de couple. Alors que le sexe addict, lui, il choisit finalement des partenaires consentants. L'instrumentalisation est dans les deux sens, les deux partenaires sont avertis et savent ce qu'ils font. Tandis que le pervers cherche à asseoir sa volonté et son emprise sur l'autre et créer un lien. Le sexe addict fuit avant toute chose le lien. Donc, en conclusion, je dirais pourquoi je ne veux plus entendre parler de nymphomanie. Le terme de nymphomanie renvoie à une étymologie dévalorisante pour la femme, et encore plus dans un contexte historique, lorsqu'on associe nymphomanie et hystérie. Mais il est important aussi de comprendre d'où viennent ces termes, et de comprendre leur histoire. Et pour revenir à la notion de sexualité compulsive, il faut se souvenir que cet état est à l'origine d'une forme de souffrance. J'aime beaucoup, j'écoute régulièrement les podcasts de Laurent Carilla, qui est psychiatre, spécialisé en addiction, et il évoque effectivement cette dépendance sexuelle. Il y a des personnes qui témoignent, je vous invite à écouter ces podcasts, c'est vraiment très bien fait, et on touche aussi le cœur de cette sensibilité, de cette souffrance. L'addiction au sexe, mais finalement la notion de souffrance, c'est ce qui devrait permettre aussi le diagnostic. Et le traitement de l'addiction au sexe reposera aussi sur des psychothérapies pour remonter finalement à l'origine de ce trouble, des médicaments en cas de dépression, d'anxiété aussi, et parfois des exercices de relaxation, d'hypnose en cas de dépression. Merci Laura.
Merci beaucoup Sonia.